Donc, je me présente, je m'appelle Alain Adin, j'ai 43 ans d'expérience en fonderie, troisième génération de fondeur de fonte, et comme je le disais tout à l'heure, labellisé EPV, entreprise du patrimoine vivant depuis 2008, et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2011, dans le cadre de l'inventaire des métiers d'art rare. Alors, ce soir, je vais vous parler fonderie. Avant de vous parler de moi, parce que je ne suis pas un très grand orateur et j'aime pas trop parler de moi, je vais vous parler un petit peu de l'histoire de la fonderie. L'histoire de la fonderie, tout le monde, encore aujourd'hui, beaucoup de gens confondent fonderie et ferronnerie d'art. Ce sont deux métiers complémentaires, différents, on y reviendra tout à l'heure. Mais savez-vous depuis quand la fonderie existe? Cette première image, elle date de moins 6000 ans avant Jésus-Christ. C'est le premier moule dans lequel a été coulé du métal qui a été découvert et il était utilisé pour les premières fusions de cuivre. Il a été trouvé en Anatolie, en Asie mineure, qui est l'ancien nom de la partie occidentale de l'Asie du sud de la mer Noire. C'est le départ de la coulée du cuivre. C'est le départ de la coulée des métaux. Alors, avec des techniques très empiriques à l'époque, mais ils arrivaient quand même déjà à couler certains outils et à couler certaines armes de cette manière, dans des moules en pierre. Je le précise bien, parce qu'en fonderie, depuis longtemps, on travaille avec des moules en sable. Mais au départ, c'était des moules en pierre. Et l'originalité, c'est que ce moule est déjà à double face. C'est-à-dire qu'ils ont déjà, à l'époque, coulé des pièces à double face. Ce qui est quand même assez exceptionnel. Dans la même période, c'est l'île de Chypre qui est le secteur le plus fort et le plus réputé au niveau de la fusion du cuivre. Après, on va passer sur 3000 ans, moins 3000 ans avant... moins 3000 ans avant Jésus-Christ. Voilà. Alors, en moins 3000 ans, c'est le début des alliages de bronze. On commence à découvrir le bronze tout à fait naturellement, puisque dans les régions où sont exploités le cuivre, il se trouve à l'état naturel de l'étain. Et on sait tous que le bronze est un mélange d'étain et de cuivre selon certaines proportions. Mais les premiers bronzes sont apparus naturellement lors de la fusion du fait de l'étain, du minerai d'étain qui était déjà contenu dans le sol avec le minerai de cuivre. Alors ça, c'est une statue, c'est un buste, une tête du roi Sargon, et qui date de moins 3000 ans avant Jésus-Christ. Après, il y a une petite période d'accalmie sur cette partie de cuivre, etc., dans cette région, et on arrive en Chine. Mais là, on est déjà en moins 1600 avant Jésus-Christ. Or, en Chine, vous voyez, les bronziers chinois étaient déjà capables de couler des vases, de couler aussi, je vais vous montrer la photo suivante, des cloches, des petits carillons composés de 5 ou 6 cloches, et ça, c'est le plus ancien qui ait été découvert. Vous voyez, donc, ça ne remonte pas aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on vient de découvrir. Donc, ça, moins 1600 avant Jésus-Christ, les bronziers chinois. En moins 700 apparaît seulement la métallurgie du fer. La métallurgie du fer, elle a été introduite par les Grecs, bizarrement. C'est les Grecs qui l'introduisent en Europe et elle est diffusée par les Celtes. Ce sont les Celtes qui, selon leurs errances en Europe, vont diffuser la métallurgie du fer. Et le plus grand centre métallurgique à l'époque se trouve en Iran. Donc vous voyez, ça, ce sont les premiers fours primitifs utilisés pour la fusion du fer. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on appelle les bas-fourneaux. Le système de combustion de l'époque était très certainement le bois. Et tout fonctionnait par tirage naturel. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune soufflerie, c'était uniquement la position, la situation du four qui permettait de provoquer la fusion du minerai de fer. Vous voyez, c'est vraiment très très primitif. Aujourd'hui, on n'en est plus là, c'est encore relativement primitif, mais on n'en est plus là quand même. Alors après, il est dans l'histoire toute simple, la métallurgie du fer se diffusant en Europe, Les gens qui vont s'occuper le plus de métallurgie en Europe, ce sont les moines. Ils ont de vastes domaines, ils ont des réserves de bois, ils ont du minerai, et ça va être eux qui vont développer la métallurgie du fer, tant par la ferronnerie que par la fonderie, en Europe. En France, les plus grands centres se situaient à Clairvaux, dans l'Aube, à Marmoutier, près de Tours. Vous aviez l'abbaye de Citeaux, en Côte d'Or, Pontigny, dans l'Yonne, pardon. Mais le plus grand centre métallurgique à l'époque, c'est l'abbaye de Fontenay, en Côte d'Or, sur la commune de Marmagne. C'est vraiment là le gros centre sidérurgique, puisqu'ils produisent autant du fer que de la fonte, qui forge, qui coule, et il y avait même un centre d'émaillage à l'époque. Donc vous voyez qu'on n'a rien inventé finalement, on a amélioré, on a progressé, mais tout était là au départ. Et on leur attribue la paternité des souffleries qui utilisaient la force hydraulique pour faire marcher les martinets pour battre les lingots de fer, pour les décarburer, pour pouvoir après les reforger et les retravailler. C'est vraiment à eux qu'on attribue cette paternité. Et ça, c'était en 1165. Donc après cette période où les moines sont vraiment les maîtres des... À la limite, ils avaient la place des maîtres de forge qu'on a connus quelques siècles plus tard. En fin du XIVe siècle, apparaissent les hauts fourneaux. Et là, on rentre déjà dans la fonderie. Ce n'est pas encore vraiment la fonderie, mais c'est la sidérurgie. C'est-à-dire qu'on fait fondre le minerai de fer. On obtient de la fonte liquide. Et cette fonte, après, est décarburée pour fabriquer de l'acier. Alors à l'époque, ce ne sont encore pas les moyens modernes qu'on a aujourd'hui d'acier électrique. Ce sont souvent des bas fourneaux qui sont transformés en hauts fourneaux. C'est-à-dire qu'on augmente les tailles, on augmente les diamètres, on augmente la productivité et on essaye aussi en même temps d'améliorer la qualité de ce qu'on produit. C'est une période qui est assez riche, assez complexe parce qu'on n'a pas beaucoup de renseignements. Mais on sait que les premiers hauts fourneaux, on en a retrouvé un en Haute-Marne en 1447. En Haute-Marne, c'était un des premiers fourneaux qui est apparu en France. Voilà. Donc là, vous avez le premier haut fourneau. Voilà, donc ça, c'est un des premiers hauts fourneaux qui a été trouvé en Haute-Marne. Vous voyez, déjà, il est d'une taille relativement importante. Et il était sur la commune de Sommevoire. Sommevoire, où il y a toujours, d'ailleurs, une fonderie d'art, à l'heure actuelle. Une fois que les fourneaux sont mis au point, qu'on arrive à travailler le minerai avec, là, la fonderie va rentrer dans l'armée. C'est-à-dire qu'on va fabriquer des canons à ce moment-là. On va commencer à fabriquer des armes à grande échelle. C'est d'ailleurs grâce à ces canons que Mahomet II a pris Constantinople. Il a été le premier à utiliser les canons sur le siège d'une ville. Des canons en bronze, lui, par contre. Donc, on commence à rentrer dans l'armement. Après, on arrive à travailler un petit peu avec l'imprimerie. C'est les débuts de l'imprimerie, on commence à éditer, et les caractères sont faits par des fonderies. D'étain, bien sûr, mais c'est aussi de la fonderie. Et puis après, on rentre dans le domaine domestique, vers le 16e, les décors, les cocottes, et un petit peu tout ce qui se fait dans les maisons en fonte ou en étain, tout ça, c'est produit directement par des petites unités qui sont dispersées un petit peu partout en France. Et chacun a son catalogue, sa clientèle, et on commence à divulguer un petit peu tout ça partout. Voilà. Par contre, quand on arrive sur le 18e siècle, au 17e et 18e, là, je vais vous montrer deux photos qui sont relativement intéressantes. C'est du bronze. On rentre dans l'ère du statuaire et des bronzes dorés dans l'ameublement. Vous voyez, la fonderie déjà se tourne vers un autre secteur en plus. On a laissé tout ce qui est fer, acier, fonte, sur le domestique, les militaires, etc., etc. Et sur le bronze, on rentre déjà plus dans du décoratif, dans du statuaire, dans quelque chose de beaucoup plus pompeux. Donc, vous avez une photo qui est celle-ci, normalement, si tout se passe bien. Voilà. C'est une statue équestre qui est l'œuvre de Girardon. Alors, cette statue équestre, elle fait exactement, j'ai ses dimensions, bougez pas, j'arrive, 6 mètres d'eau. Et elle pèse 40 tonnes. Et elle a été coulée en une seule fois. On est au 17e, 18e siècle. Je ne sais pas si vous voyez déjà la prouesse technique pour arriver à couler d'un seul morceau une telle statue. Il y en a eu énormément. Il y en a énormément qui ont disparu sous la Révolution, qui ont été détruites. Mais c'était vraiment... Tous les gens qui avaient de l'argent, tous les maîtres de ville qui voulaient offrir une statue ou quelque chose, passaient par un fondeur de bronze et c'était des statues de cette taille à chaque fois. À chaque fois, c'était 10, 20, 30 tonnes d'un seul coup avec des hauteurs phénoménales, des dimensions exceptionnelles pour l'époque. Sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas de four industriel pour couler le bronze. On le coulait au creuset. Alors imaginez 40 tonnes. En une seule fois, le nombre de personnes qu'il a fallu pour mettre en œuvre, couler le métal et pour remplir l'ensemble d'un seul jet. Il y a dû y avoir, à mon avis, énormément de gens qui, à la queue leu-leu, venaient vider leur poche de bronze dans le moule pour arriver à un tel résultat. Parce que croyez-moi, en tant que fondeur, je peux vous dire 40 tonnes d'un coup, c'est pas compliqué quand vous avez le four qui va... Et la poche de coulée qui va avec, c'est simple, il suffit de verser dans le moule. Mais quand vous avez que des petites poches de coulée et des petits fours, ça a dû être quand même une sacrée expérience à l'époque. Et pour l'ameublement, alors là c'est autre chose, c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus travaillé, c'est à la limite même moins compliqué que la statue qu'on vient de voir. C'était une pièce qui a été réalisée par Charles-André Boulle, n'est-ce pas? Tout le monde connaît la fameuse école Boulle. Voilà. Et c'est le décor d'une commode dite Mazarine. Donc vous voyez la finesse, je ne sais pas si on voit bien là-haut, la finesse du travail, c'est vraiment... là, vous avez vraiment un travail de mouleur et de bronzier qui est intéressant. J'essaie de grossir un petit peu pour... Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez toute la partie du visage, là, les ailes, le buste, tout ça est très 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 finement ciselé. Et ils arrivaient à des résultats comme ça à l'époque avec pratiquement pas de reprise de ciselure derrière. C'est-à-dire que c'était sorti du sable, ils coupaient les attaques, ce qu'on appelle les attaques de coulée, les entrées où on versait le métal dans le vide qui présentait la pièce. Et après, c'était simplement brossé, poli, nettoyé. Il n'y avait pratiquement pas de ciselage à l'époque. Aujourd'hui, quand on veut faire une pièce en bronze, souvent, il y a de la reprise de ciselage derrière. Moi, je connais beaucoup de ferronniers qui me disent, au moins avec toi, on est un peu content parce qu'on n'est pas trop enquiquiné avec la reprise. Quand tu livres, c'est fini. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était... Et on travaillait à la main. Il n'y avait pas de Dremel, il n'y avait pas de machine électroportative, il n'y avait rien. Tout se faisait à la main, marteau, burin. Tout était vraiment travaillé très, très finement. Donc ça, c'était pour toute la partie bronze. Et arrive en 1720. Alors là, on va revenir à la fonderie de fonte, proprement dite. On revient à la fonderie de fonte avec le cubilot, le fameux cubilot. Alors, un cubilot qui va vous paraître un petit peu peut-être désuet, mais qui pour l'époque était quelque chose d'exceptionnel parce que c'est le premier qui a été fabriqué. Ça, c'est une planche que j'ai retrouvée dans les encyclopédies Diderot et d'Alembert. C'est une planche qui représente, en coupe en bas hein, sur la photo, les détails du cubilot inventé en 1720 par Ferchaud de Réaumur. Et ça a été le premier cubilot avant froid au monde. Alors, vous voyez la forme qu'il avait, c'est toujours cette forme cylindrique, mais par contre en éléments qui se détachaient. Et apparemment, la partie basse qui forme un peu comme une coupelle que vous voyez ici, là, en C, là, c'était le creuset, c'était le fond du cubilot qui se détachait et c'était le fond du cubilot qu'on emmenait pour couler les pièces. Alors que maintenant, c'est plus du tout ça. Il est d'un seul morceau et on tire la fonte directement sans démonter le four, si vous voulez, sans démonter le cubilot. À l'époque, on transportait le fond du cubilot, c'est le premier, c'est réellement le premier. Par contre, vous allez voir tout de suite la différence avec un cubilot dit moderne, c'est complètement différent. Donc là, vous avez le cubilot moderne, tel qu'il existe encore aujourd'hui. Il n'a pas été amélioré depuis. Vous avez toujours les trois parties, la cheminée, la zone de fusion et le creuset. En bas, vous avez les pieds, la semelle, la sole qui est fermée, la goulotte pour la sortie de la fonte. La porte d'allumage, c'est une porte qui est ouverte quand on allume le feu et qu'on ferme avec du réfractaire avant de démarrer la fusion. Le trou de chaud, c'est, je vous expliquerai tout à l'heure, c'est l'endroit par lequel on évacue les impuretés qui flottent sur la fonte, dans le tubilot. On les sent, on le fait régulièrement. L'étuyère, c'est l'endroit où l'air est soufflé sur le foyer pour activer la température. L'entrée d'air, ben derrière, il y a un ventilateur, hein, bête et méchant, qui souffle de l'air, aspiré à l'extérieur. C'est pour ça qu'on appelle ça un tubilot à vent froid. Il aspire de l'air ambiant. Vous avez un autre type de tubilot, qui est le tubilot à vent chaud, qui lui souffle de l'air chaud, mais qui est réchauffé avant à 1000 degrés. Ce sont deux principes différents. La boîte à vent, c'est l'enveloppe dans laquelle circule l'air avant de pénétrer en contact du feu. La zone de fusion, c'est l'endroit où la fonte là, va commencer à passer à l'état liquide. Et le gueulard, l'endroit par lequel on charge en strate la fonte et le coq pour pouvoir travailler en poulie continue. Donc vous voyez que par rapport au cubilot de faire chaudre au mur, c'est pas tout à fait la même chose. Et là, on le démonte pas pour aller couler le creuset. On se contente de mettre une poche sous la goulotte et on fait couler la fonte dedans avant d'aller couler les moules. Donc vous voyez qu'il y a eu quand même quelques progrès entre les deux. Donc après cette période de fameux cumulot à vent froid, cumulot à vent chaud, parce que ça, tout ça était à peu près mis au point à la même époque, là la fonderie va rentrer dans un grand domaine et un vaste domaine qui est celui de la construction. Vous savez qu'il y a énormément d'immeubles, de bâtiments qui se sont construits aux alentours de 1780, 1820, 1850, charpente métallique, colonne en fonte, support en fonte, semelle pour maintenir les poteaux en fonte. On a lié la fonte et l'acier pour la construction. Par contre, un événement se produit, c'est que en 1735, un Anglais, Darby, invente le coke de métallurgie. C'est de la houille carbonisée qui remplace le charbon de bois qui était utilisé jusque-là petit à petit dans les fonderies. Ce qui permet d'augmenter encore la taille des hauts fonds, leur qualité de métal, le tonnage et la rapidité de fusion. Là, on peut passer sur des pièces qui vont jusque 80-90 tonnes en un seul morceau. Mais on n'est plus au charbon de bois, on est au coke. On a changé de combustible et c'est ce combustible qui permet cette progression. Donc on commence à construire des bâtiments avec tout en alliant l'acier et la ferraille. Et la première fois qu'on coule au coke en France, c'est dans les fonderies royales de Montcenis, qui a été créé au Creusot, qui ont été créés par Ignace de Vandel, William Wilkinson et les frères Perry. C'est la toute première fonderie en France qui a coulé au coke de métallurgie, qui est un procédé anglais. Ce n'est pas les Français qui ont inventé ça, c'est les Anglais. Nous, on était encore au charbon de bois. Vous voyez ? Par contre, ça a permis de décupler absolument tout le secteur de l'industrie en fonderie. On a coulé la première fois au coke en Lorraine à Hayange en 1769. Et le coke était utilisé par les Anglais depuis 1935. En France, on n'y croyait pas. On n'en voulait pas. Gros défaut de la fonderie, même encore à l'actuel, quelque chose qui marche, on ne le change pas. Ça devient trop compliqué. Donc on ne change pas, on reste sur ses acquis, on essaye d'en tirer le maximum, mais il n'y a pas de grande révolution, si vous voulez. Des évolutions, certes, mais pas de grande révolution. C'est un petit peu ce que je reproche, enfin ce que je reproche à mes confrères, et même à moi en général, mais c'est un peu le reproche que je fais à la fonderie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de révolution. Donc en 1781, la fonderie rentre dans la construction, et je vais vous montrer le premier pont en fonte, complètement en fonte, le tablier est en fonte. Si ce truc veut marcher, alors voilà, je vais essayer d'agrandir un tout petit peu, excusez-moi. Voilà, vous avez ici l'Iron Bridge qui a été construit en Angleterre. Le tablier est en fonte. C'est le premier pont métallique qui a été construit en Europe. Sur la Severn, en Angleterre, 5 arcs en fonte de 30 mètres soutiennent un tablier à une hauteur de 15 mètres.